OK, si vous voulez me suivre, on va aller dans Genèse chapitre 4, les versets 17 à 26. Genèse chapitre 4, versets 17 à 26. Caïn connut sa femme. Elle conçut et enfanta Hénoc. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Hénoc. Hénoc engendra Irad. Irad engendra Mehujael. Mehujael engendra Métushaël. Et Métushaël engendra Lémec. Lémec prit deux femmes. Le nom de l'une était Ada, et le nom de l'autre Tsila. Ada enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous les tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tsila, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Lémec dit à ses femmes, « Ada et Tsila, écoutez ma voix. Femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et il l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enosh. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Alors, j'ai intitulé la leçon d'aujourd'hui Les deux lignées se perpétuent, la lignée impie et la lignée pieuse. Alors, dans les versets 17 à 24, on va regarder la lignée de l'impie, et dans les versets 25 et 26, on va regarder la lignée pieuse. Alors, on se souvient dans Genèse 3, les versets 14 et 15, que Dieu avait solennellement et prophétiquement déclaré qu'après la chute, il y aurait deux semences, celle du serpent et celle de la femme, et on sait que la semence de la femme était le Messie. Alors, ça disait dans 14-15, « L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, tu lui blesseras le talon. » Alors, c'est vraiment les versets qui nous disaient prophétiquement que Dieu avait prévu, prophétisé qu'il y aurait toujours deux lignées. La lignée de ceux qui ne sont pas convertis, qui appartiennent à Satan, les fils de Satan, et les fils de Dieu. Alors, la suite du déroulement de l'histoire humaine, que ce soit dans les Écritures ou que ce soit dans l'histoire du monde, ça illustre puissamment cette vérité-là qui est irréfutable, que l'humanité serait désormais divisée entre deux parties, ceux qui appartiennent aux malins et ceux qui appartiennent à Dieu par la foi au Messie. Quand même curieux qu'on se promène sur la rue tous les jours, on rencontre, souvent on va rencontrer plus de personnes non converties que de converties, là, parce qu'on est quand même à Lac-Mégantic, je ne sais pas comment on peut être. Il y a 3 églises protestantes, dont peut-être, on est peut-être 200 en tout, disons, à peu près, 200-250. Sur une population de, quoi, si on calcule les villages alentours, peut-être 10 000. 250 sur 10 000, c'est pas beaucoup. Et encore, les 250, peut-être qu'il y en a-t-il parmi eux qui ne sont pas véritables des enfants de Dieu. Alors, si vous regardez la proportion, les deux lignées sont toujours là. Et ce que je partageais tantôt en allant au salon mortuaire, ça nous fait prendre conscience que des gens qu'on côtoie, qu'on aime bien, qu'on respecte, ils sont peut-être, s'ils décéderaient là, au moment qu'ils s'en iraient en enfer pour l'éternité, étant des enfants du malin. C'est une phrase qui est dure à dire, hein, de quelqu'un qui est un enfant de Satan. Pourtant, c'est ce que les Écritures nous enseignent quand quelqu'un n'appartient pas à Dieu. Il appartient à Satan, automatiquement. Alors, le Seigneur n'avait pas enlevé à Ève, à cause de son péché, le pouvoir de la reproduction. Alors, ce passage-là va nous démontrer que les œuvres des hommes en général, démontre à quel groupe ils appartiennent. Quand on regarde les gens vivre autour de nous autres, normalement, un chrétien devrait produire du fruit, des œuvres qu'on peut observer et qui fait en sorte qu'on est capable de le distinguer d'une personne qui n'est pas régénérée. D'un autre côté, quand on regarde les personnes qui ne sont pas régénérées, plus particulièrement de nos jours, c'est assez facile de voir que les gens sont dominés par toutes sortes de péchés qui sont clairement identifiés comme étant des péchés dans les Écritures. Ça peut être la boisson, ça peut être la drogue, ça peut être le sexe. Et là, on peut allonger la liste des péchés qui est énorme. Normalement, un chrétien, on devrait s'apercevoir dans sa vie qu'il est un chrétien. Sinon, c'est bizarre un peu, parce que le Seigneur ne nous a pas sauvés pour qu'on demeure dans nos péchés, il nous a sauvés pour qu'on devienne de plus en plus ressemblant à la personne de Jésus-Christ. Et quand on prend les quatre évangiles, qu'on les lit attentivement, on s'aperçoit que ressembler à Jésus-Christ, ce n'est pas un petit contrat pour nous qui sommes des pécheurs. Alors, ce qu'on remarque normalement autour de nous, c'est que les impies s'enfoncent davantage dans le péché, dans la rébellion et dans l'arrogance. Les hommes pieux, quant à eux, invoquent de plus en plus le nom du Seigneur, adorent et font preuve de crainte de Dieu. Ce n'est pas normal qu'une personne soit un chrétien qui n'y a pas une grande crainte de Dieu. On peut avoir traversé des périodes dans nos vies où la crainte de Dieu est un petit peu défectueuse. C'est une chose, on disait tantôt, on peut lutter à genoux. C'est une chose à demander au Seigneur. Le Seigneur nous dit que quand on lui demande quelque chose qui est selon sa volonté, il nous l'accorde. S'il n'y a pas d'obstacle majeur dans l'exaucement de nos prières, le Seigneur, on peut demander la crainte de Dieu. On peut demander d'avoir du courage pour évangéliser. On en manque tous. Alors, ce qui nous manque, il faut prendre conscience que des fois, les Écritures nous demandent des choses, et quand on regarde ça, on se dit, « Mais moi, je ne suis pas capable de faire ça. » Combien de fois? Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, ça m'est arrivé plein de fois. Et quand on se rend compte qu'il nous manque, qu'est-ce que le Seigneur nous demande de faire, ça ne veut pas dire que le Seigneur n'est pas capable de nous donner ce qu'on a besoin pour accomplir ce qu'il nous demande. Encore faut-il qu'on lui demande. Si on lui demande, le Seigneur aime ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui ont le cœur contrit. Il aime les personnes qui sont humbles. Tu dis, je ne suis pas capable. Seigneur, tu me le demandes, mais je ne suis pas capable. Là, on peut dire ça, mais si on reste là, on est comme figé, on ne bouge plus. Mais si on se rend compte qu'on n'est pas capable, mais qu'il y en a un qui est la source de toute capacité, de toute bénédiction, puis de don de toute force, bien, c'est à nous de prendre conscience de notre misère. Parce que moi, je trouve que plus on prend conscience de la profondeur de notre misère, plus on va être porté à se tourner vers Dieu pour lui demander ce qu'on a besoin en toute chose. Et ça, c'est une bonne chose d'être conscient de notre misère. Ça aussi, on peut le demander au Seigneur. Seigneur, rends-moi conscient de ma misère, parce que plus je vais l'être, plus je vais avoir tendance à vouloir dépendre de toi en toute chose, en tout temps. Ça, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, on va aller regarder la lignée de l'impie, versets 17 à 24. Et je vais vous le dire dès le départ, dans le verset 17, il y a une grande question que peut-être certains se sont déjà posées. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'évoquer rapidement au début. Et j'ai trouvé un super de bon texte qui explique qui était la femme de Caïn. On va revenir un petit peu là-dessus. Et je vais passer rapidement sur ce verset-là, le verset 17, pour, à la fin du sermon, vous donner tout ce que je peux, ce que j'ai trouvé sur Internet. Ben, je ne voudrais pas rallonger le culte. Fait que je me suis dit, normalement, peut-être ça aurait pris plus de temps que 45 minutes. Là. Mais autrement dit, on va faire tout le sermon, puis le verset 17, qui était la femme de Caïn. On va revenir là-dessus parce qu'on va voir que ce n'est pas une difficulté qui est d'aujourd'hui. Elle date de longtemps et elle a été longtemps. Une excuse pour les gens de dire, voyons, ça se peut pas, vous êtes en train de dire qu'il y avait Adam et Ève qui ont eu deux fils, vous êtes en train de dire que Caïn s'est marié. Il est marié avec qui? Alors, c'est ça la question. Alors, si on n'est pas capable de répondre à ça, à quelque part, je serais curieux, combien, je veux pas vous lever les mains, là, mais combien d'entre vous seraient capable de défendre le point de vue biblique que que Caïn s'est marié avec une femme, puis en se basant sur d'autres versets, à la fois de l'Ancien Testament, de la Genèse, et à la fois du Nouveau Testament. Savez-vous que c'est un ordre que le Seigneur nous donne d'être capable de défendre notre foi? Quand on n'est pas capable de le faire, ça implique qu'il y a des connaissances qui nous manquent ou qu'il y a de la paresse qui s'est installée dans nos vies, qu'on n'est pas capable de faire ce que le Seigneur nous dit qu'on se devrait d'être capable de faire. Alors, quand ça dit la lignée de l'impie, on va lire tout simplement le verset 17. « Caïn connut sa femme. Elle conçut et enfanta Enoch. » De là, la grande question. Il y avait Adam, il y avait Ève, il y avait ses deux fils, Caïn et Abel. Et le texte dans Genèse 4 ne mentionne pas qu'il y avait d'autres, ils ont eu d'autres enfants. Alors la question à se poser, c'est que, voyons, faut-tu qu'il couche avec sa mère? Alors, quelque part, on devient un petit peu mélangé à cause de ça. Mais je vous le dis, aujourd'hui, on va faire le reste du sermon, puis à la fin, on va revenir sur cette partie-là, parce que c'était un peu long, mais je vais essayer de vous la résumer du mieux que je peux à l'intérieur du temps qui m'est assigné. Alors, voilà une question qui a troublé bien des esprits. Elle a pourtant une réponse, mais nous sommes devenus difficilement capables d'y répondre intelligemment. La Bible nous commande. Là ça ne dit pas la Bible te demande si ça te tente. La Bible te commande dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 15. « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Alors, quand une question de même nous est posée, si on n'est pas capable, ça n'amène pas un bon témoignage au Seigneur. On se devrait d'être capable. Et le document que je vous ai trouvé sur Internet fait un super de bon travail dans cela. Alors, je vais vous en laisser une copie à tout le monde après le culte, de manière à ce que lisez-le, relisez-le, rentrez-vous-les dans l'esprit, que si quelqu'un vous poserait la question, vous seriez capable ensuite de défendre avec douceur et respect, si quelqu'un vous demandait des questions. Alors, l'article, j'ai mentionné, vous allez avoir l'article au complet. Et à la fin de cet article-là, on nous mentionnait qu'on avait le droit d'utiliser ce document-là pour le distribuer, en autant que ça se fasse à l'intérieur des familles ou à l'intérieur des églises. Ce n'est pas un document qu'on pourrait vendre. La personne qui l'a mis sur Internet a dit « J'ai mon droit d'auteur là-dessus, je vous permets de l'utiliser. » Mais c'est ça que ça disait. Sur les lieux de travail, dans leur foyer, dans leur témoignage personnel, dans les églises et dans les écoles. Alors, on ne brise pas le droit d'auteur en faisant ça, mais en autant qu'on respecte, qu'on ne se met pas à distribuer ça comme des pains chauds ou le vendre. Alors, on va revenir, comme je vous disais tantôt, parce que c'est un article quand même assez long, mais très intéressant. Alors, on va continuer dans le verset 17 et 18, où on nous montre que Caïn, après qu'il s'est exilé, après que Dieu l'a exilé, il a fait 3 efforts pour tenter d'atténuer certains effets de la malédiction. Verset 17. Il bâtit ensuite une ville. Et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Qu'est-ce que le Seigneur lui avait dit? Il avait dit qu'il devrait être errant sur la terre. Est-ce qu'un errant s'installe pour être capable de bâtir une ville? Alors, tout de suite là, il y avait un signe de rébellion. Il aurait été censé d'être un errant. Alors, dans le verset 18, ça dit « Enoch engendra Irad, Irad engendra Méhugéel engendra Métushéel, et Métushéel engendra Lémec. » Alors, le premier péché qu'on voit à l'intérieur de ce passage-là, c'est vraiment de vouloir défier l'autorité de Dieu et de se réfugier dans ce qu'on pourrait qualifier de l'activisme et mettre son espérance dans sa postérité. Alors, on voit qu'il mentionne les noms. Alors, Dieu avait condamné Caïn à l'errance et au vagabondage. Caïn vient ici défier l'autorité de Dieu en s'installant dans le pays de l'errance. Son installation dans la ville ne le libère pas du jugement divin. Il devient errant et vagabond, qu'on pourrait dire d'une manière spirituelle. On aurait pu traduire, si on prendrait les verbes, le temps du verbe dans l'hébreu, on aurait pu traduire « il était en train de bâtir une ville ». Le temps de verbe indique une activité continuel de construire sa ville. Autrement dit, c'est, il s'est réfugié un petit peu dans la volonté de construire la ville et de s'installer, quoique Dieu lui avait dit qu'il serait errant et vagabond. Certaines personnes, des fois, amènent certains arguments contre le fait que les gens de cette époque-là n'avaient pas la capacité et l'intelligence de construire une ville. Mais ça, c'est complètement faux. C'est parce qu'on regarde ça avec les yeux du 21e siècle, puis on se dit que les gens de cette époque-là étaient moins intelligents que nous autres. Ça, c'est complètement une erreur. Les gens avaient déjà des habiletés et avaient l'habilité de construire une ville. Alors, une des tendances qu'on voit à l'intérieur de ça, c'est que même si Dieu lui avait dit qu'il serait errant et vagabond, le pécheur a toujours tendance à vouloir oublier son état et à se livrer à ce qu'on pourrait appeler toutes sortes de formes d'activisme. Autrement dit, on voit ça aujourd'hui quand on regarde un petit peu autour de nous, les gens sont comme hyperactifs, sont engagés dans toutes sortes d'activités, excepté celles qui devraient s'engager dedans, celles de mieux connaître le Seigneur. On avait vu dans le verset 16, « Puis Caïn s'éloigna de la... » 4:16, « S'éloigna de la face de l'Éternel et il habita dans la terre de Nod à l'Orient d'Éden. » Ici, je pense qu'il faut rappeler une grande vérité. La cure géographique n'arrange rien. J'ai vu ça souvent dans ma vie, des gens qui pensent que, « Bon, OK, là, j'ai plein de problèmes, mais si je change de ville, là, ça va bien aller. » Ça ne marche pas de même. Tu vas, ton mal intérieur, tu vas le transporter avec toi, peu importe la ville où tu vas aller. Alors, il ne faut pas surprendre que le Seigneur nous ait dit, « Ne t'étonne pas de ce que j'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Donc, première chose qu'on constate dans les activités, les effets de la malédiction, les trois efforts pour atténuer, défier l'autorité de Dieu, se réfugier dans l'activisme et mettre son espérance dans sa descendance. On voit qu'il mentionne les noms de sa descendance. On voit une autre chose dans le verset 19, l'effet de l'enfoncement dans le péché. Quand quelqu'un s'éloigne de Dieu, tôt ou tard, il va s'enfoncer dans le péché. Ça dit dans le verset 19, « Les mecs trient deux femmes. » Hop, on vient de voir apparaître la polygamie. On voit un lien direct entre le fait que Dieu, une personne s'éloigne de Dieu. Alors, il mentionne les noms des deux. Alors, Lémec était le septième depuis Adam dans la lignée de Caïn. Il introduit ici la bigamie et la polygamie et ouvre la porte à l'imitation par les autres. Il ne faut jamais penser que quand on pêche, qu'on n'a pas un effet sur la vie des autres. Quand on pêche, les autres nous voient, ça a un effet d'entraînement. Alors, Dieu avait pourtant clairement établi les règles du jeu. Le mariage se devait d'être entre un homme et une femme, et ceci, pour la vie. Comme ça disait dans Genèse 2, 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Alors, on voit que l'éloignement amène l'enfoncement dans le péché par la bigamie. Et plus tard, on va voir des Écritures que ça va avoir amené aussi. La polygamie, deux, c'est pas suffisant, ils vont en vouloir encore davantage. La troisième chose dans les efforts pour atténuer les effets de la malédiction, c'est la distraction dans ce qu'on pourrait appeler l'activité culturelle. Et ça marche encore de nos jours. On va voir que, dans le fond, la manière des hommes de vouloir atténuer les effets de la malédiction sont toujours les mêmes. Défie l'autorité de Dieu, l'activisme, se fier dans sa postérité, l'enfoncement dans le péché et la distraction dans les activités culturelles. Verset 20-22, Ada enfanta Jabal, il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal, il fut le père de ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tsila, de son côté, enfanta Tubal-Caïn qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naaman. Qu'est-ce qu'on peut lire dans les deux? Il y a trois activités qu'on voit à l'intérieur des versets. Trois activités avec les noms des trois personnes. Jabal, lui, s'est réfugié dans l'agriculture et l'élevage. Et on pourrait dire, l'équivalent moderne de ça, c'est la voie de l'enrichissement. Une personne qui cherche à s'enrichir par tous les moyens. Jubal, on regarde, il s'est réfugié dans quoi, lui? La musique, les arts et la poésie, la voie du divertissement. N'est-ce pas qu'on voit encore amplement cette façon d'agir des hommes, de penser qu'ils ne sont plus sous la malédiction parce qu'ils entendent de la belle musique, ils entendent des belles choses et ils sont portés à se réfugier là-dedans. Et Tubal-Caïn, l'industrie, parce qu'on parle de forger des instruments de métal, l'airain et le fer, donc c'est la voie de l'accomplissement. Regardez les trois voies et regardez si les voies modernes ont changé par rapport aux voies de l'homme de cette époque-là. La voie de l'enrichissement. Est-ce qu'on voit ça autour de nous, les gens qui courent après l'argent, comme des malades, comme on dit, ils travaillent jour et nuit, ils sont vraiment contents, et quand ils n'ont 1 million, ils ne sont pas contents encore, ils en veulent 2, quand ils n'ont 2, ils en veulent 10, quand ils n'ont 10, ils en veulent 50, etc. Ça n'arrête pas. Alors, ils cherchent leur satisfaction dans les choses de la terre par la voie de l'enrichissement. La voie du divertissement. Est-ce qu'on le voit un petit peu autour de nous aussi, que les gens cherchent à satisfaire leur... aller chercher leur plaisir dans la musique, dans les spectacles, dans les choses comme ça. Et l'autre, la voie de l'accomplissement, l'industrie, la voie, c'est... L'accomplissement, c'est de chercher à trouver son bonheur dans l'accomplissement, faire des grandes choses. Troisième chose, c'est qu'il va y avoir, dans le verset 23 et 24, un enlisement dans l'orgueil, la violence et la présomption. Quand il dit dans le verset 23, Lémec dit à ses femmes, écoutez bien le ton, l'arrogance qu'il y a là-dedans, c'est fou, là. Il dit, Lémec dit à ses femmes, Ada est-il là? Il met ses deux femmes devant lui, il dit, écoutez ma voix. Et là, il dit, « Femme de Lémec, écoutez ma parole. » Il dit deux fois, « Ma voix puis ma parole. » Il se prend pour Dieu. « J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. » Donc, il est en train de dire, « Je suis tombé, je suis rendu un meurtrier. » Et là, il se fie un peu sur le fait que Dieu avait dit à Caïn qu'il ne serait pas qu'il serait vengé s'il y avait quelqu'un qui voulait lui enlever la vie. Il se fie sur cette déclaration divine-là pour croire que lui va être aussi à l'abri du jugement divin s'il s'aventure dans le meurtre. Il dit, Caïn sera vengé cette fois s'il tue quelqu'un. Il dit, et les mecs, 77 fois. Et quelque part. Autrement dit, il dit, moi, je vais tuer comme je veux, puis Dieu ne me touchera jamais. À quelque part, on voit, plus ça va, plus l'enracinement dans le péché, l'enfoncement dans le péché devient grave. Alors, les descendants de Caïn sombrent ici dans la vengeance disproportionnée et impitoyable et dans l'insuffisance. Aucune crainte de Dieu. Autrement dit, moi, je suis marié avec 2-3 femmes, la polygamie, je tue qui je veux quand je veux, puis Dieu ne me touchera pas. Quelle arrogance, quelle présomption, quelle folie. Alors, il semble vouloir indiquer que tous ceux qui se placeront à travers son chemin goûteront à sa violence meurtrière. Il semble croire que tuer ne soit pas grave, parce que Caïn, lui, a eu la protection divine, et qu'il jouira lui aussi également de la protection divine. Si on va un petit peu plus loin dans Genèse 9, verset 6, le Seigneur dit, « Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. » On voit vraiment les mecs qui s'enorgueillissent dans son péché. Avez-vous remarqué ça que pour certains hommes, le péché, plus ils en font, plus ils se pètent les bretelles avec ça en étant fiers de leur péché. C'est exactement ce qu'on voit, l'enfoncement du péché ici de les mecs. Le Seigneur nous met en garde contre cet état d'esprit-là. On a passé rapidement. J'ai dit, on reviendra au verset 17, on va revenir tantôt. La lignée pieuse, maintenant, les versets 25 et 26. Verset 25, ça dit, « Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils, et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. » Il y a quelque chose de très intéressant dans ces versets-là que la grosse majorité du temps, on le lit et on ne le voit pas. On voit ici que Ève fait un acte de foi. l'hostilité du serpent envers la postérité de la femme est contrecarrée. On voit Ève qui va changer son attitude. Par exemple, dans 4, au verset 1, par rapport à l'attitude qu'elle a eue quand elle a eu son premier, c'est-à-dire Adam connut Ève, sa femme, elle conçut, elle enfanta Caïn, et elle dit « J'ai ». Elle ne dit pas que c'est Dieu, elle dit « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel ». Les versions Osterval et David Martin traduisent « J'ai acquis un homme avec l'aide de l'Éternel ». Et l'autre se dit « J'ai acquis un homme de par l'Éternel ». Certains auteurs croient que l'expression pourrait se traduire « J'ai acquis un homme, virgule, l'Éternel ». Autrement dit, la première qu'elle a eue, elle pouvait croire que son fils était le Messie promis. Et ceux qui ont cru que, à cette interprétation-là, il y avait la tradition juive ancienne et Martin Luther. Quand même, pas un deux de pique, Martin Luther, il a cru que ça pouvait dire ça. Je ne suis pas en train d'affirmer que ça veut nécessairement dire ça, mais que ça pouvait dire ça. Le fait d'avoir perdu Abel ne décourage pas Ève et elle persiste à croire à la promesse divine, mais l'accent de Genèse 4.1 est sur elle-même. J'ai acquis un homme avec l'aide de l'Éternel. Tandis qu'ici, on voit qu'elle met l'accent sur Dieu. Un changement d'attitude. Elle dit, Dieu m'a donné un autre fils. Pas j'ai acquis, mais Dieu m'a donné un autre fils. Alors, la mort d'Abel, le juste, peut être perçue, bien sûr, comme une préfiguration de la mort du juste Jésus-Christ. Alors, dans le verset 26, on voit qu'il y a eu un réveil spirituel à cette époque-là. Seth eut aussi un fils, il l'appela du nom d'Enoch, c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Autrement dit, on est en train de dire que même si la lignée impie s'enfonçait de plus en plus dans le mal, dans l'orgueil, et dans essayer de se réfugier dans toutes sortes de choses qui étaient des choses mauvaises pour eux, même si eux croyaient que c'était bon, ça dit qu'à cette époque-là, on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Ça veut dire que la lignée pieuse s'est de plus en plus rendue compte de leur nécessité de se fier sur Dieu. Le nom d'Enoch évoque la fragilité et la faiblesse humaine. C'est durant sa vie que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'est le début d'un vaste mouvement, d'un culte à Dieu, de se souvenir de Dieu, de faire confiance à Dieu et d'offrir des sacrifices. La crainte de Dieu recommence à s'installer dans les cœurs, bien sûr, par la grâce de Dieu. Romains 10, versets 13 et 14, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment n'entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? » Alors, c'est vraiment un rappel que c'est notre devoir de prêcher le salut de Jésus-Christ à tous ceux qui nous entourent, qui sont de la lignée du malin. On en connaît plein. On a dit, bien souvent, on est dans un bloc, la personne d'en bas, on sait qu'elle n'est pas sauvée, le voisin d'en face, on sait qu'elle n'est pas sauvée. On en a plein autour de nous autres. Alors, des fois, le Seigneur nous donne des occasions. Des fois, ce n'est pas facile, il faut chercher à établir le contact, mais des fois, le Seigneur nous donne aussi des occasions. Ça veut dire que j'aurai jusqu'à à peu près 25 minutes, 30, 15 minutes. OK. On va essayer de faire le tour de la question de d'où vient la femme de Caïn. Parce que tout à l'heure, quand on a posé la question, je suis à peu près certain qu'on pourrait faire venir à peu près qui que ce soit en avant, je ne serais pas capable de le faire. Alors, si on n'est pas capable de le faire, à quelque part, il y a un manquement dans notre connaissance, il y a un manquement dans notre obéissance au Seigneur qui nous dit qu'on se devrait être prêt d'être capable de défendre notre foi devant qui que ce soit qui nous le demande. Alors, je vais vous lire l'article, on va essayer de passer rapidement, je ne sais pas si 15 minutes va être suffisant, parce que c'est un article qui a quand même 6 pages, mais je vais quand même essayer de vous sortir les idées principales, et je vais vous laisser à tout et à chacun, une par famille, une copie de cet article-là, qui est vraiment un excellent article. Alors, ça dit, est-elle l'épouse la plus célèbre de l'histoire, en parlant de la femme de Caïn? Je serais porté à dire que oui. On ne connaît même pas son nom. Et pourtant, elle a été le sujet de discussion lors du procès Scopes. Le procès Scopes, c'est aux États-Unis dans les années 20. Il y a eu un immense procès qui mettait en opposition les croyants que les incroyants, autrement dit, les évolutionnistes avec les créationnistes. Et c'est devenu un procès célèbre aux États-Unis. Parce que il y avait des personnes qui se plaignaient qu'on enseignait le créationnisme dans les écoles et ils voulaient faire arrêter ça, c'est allé jusqu'en cour. Alors, ce qu'on appelait le fameux procès Scopes. Et il y a eu des films ensuite qui ont été faits sur le même sujet, Inherit the Wind et Contact. On a parlé de ce supposé problème-là de la femme de Caïn dans beaucoup de livres, de films. Et le procès Scopes, ça a été peut-être celui qui a fait le plus de bruit, là, parce qu'aux États-Unis, c'était suivi par tout le monde à l'époque des années 20. Alors, les sceptiques, en ce qui concerne la Bible, ont eu recours à la femme de Caïn maintes et maintes fois pour tenter de discréditer le livre de la Genèse en tant que récit historique véridique. Et l'auteur nous dit, il est triste de constater que la plupart des chrétiens n'ont pas fourni une réponse satisfaisante à cette question. Alors, le fameux procès Scopes, il a eu lieu au Tennessee en 1925 et il y avait deux avocats. Il y en a un qui s'appelait William Jennings Bryan, l'avocat de la partie civile, et il y en avait un qui représentait les chrétiens, qui s'appelait Clarence Darrow. Alors, je vais vous donner juste un petit extrait des questions qui s'est posées dans le procès, et ça, c'était public, là. C'était public, ça s'en allait dans les journaux après ça, tout cela. Alors, la question que l'avocat pose, avez-vous découvert où Caïn a trouvé sa femme? Réponse, non, monsieur, je laisse cette tâche aux agnostiques. Je trouve que l'avocat des chrétiens, laissez-moi, il n'était pas trop fort. Après ça, l'autre, il pose une autre question, il dit, donc, vous ne l'avez jamais trouvé? La réponse, je n'ai jamais essayé. Vous n'avez jamais essayé? Non. Question, mais pourtant, la Bible rapporte qu'il en a trouvé une, n'est-ce pas? Y avait-il d'autres personnes sur la terre à ce moment-là? La réponse de l'avocat chrétien, je ne pourrais pas l'affirmer. Une autre question, vous ne pourriez pas. Ça ne vous a jamais amené à la réflexion sur ce sujet? Réponse, je m'en suis jamais soucié. Question, aucune indication d'autre humain, et pourtant, Caïn a trouvé une femme. C'est ce que la Bible déclare. L'avocat chrétien répond. Alors, vous ne savez pas d'où elle est venue. Et ça finit de même. À quelque part, je trouve que l'avocat chrétien a fait un travail assez piètre travail. Mais il ne faut pas penser que toutes ces choses-là n'ont pas eu un impact à cette époque-là et que ça n'en a pas encore jusqu'à aujourd'hui. Parce que ça l'a fait sortir le christianisme, la pensée chrétienne des écoles, et ça l'a entré ce qu'on voit aujourd'hui. Alors, l'incapacité d'être capable de prouver un point peut avoir d'immenses conséquences, comme on peut le voir. Alors, les conséquences sur le christianisme, à savoir que les chrétiens, à cette époque-là, avaient acquis la réputation qu'ils sont incapables de défendre le récit biblique. Pourtant, il en existe des réponses. Mais je vais vous laisser lire les documents. Mais je vais juste regarder un petit peu certaines affirmations. Alors, quand on dit la lecture d'où vient la femme de Caïn, est la question la plus souvent posée aux conférenciers créationnistes. Il y a des conférenciers créationnistes qui se promènent partout dans les universités, dans les écoles, partout. Et c'est la question qui revient le plus souvent. Ils pensent qu'ils vont bloquer le conférencier en lui disant, vous dites qu'il y avait Adam et Ève, il y avait eu deux enfants. Puis là, vous dites que Caïn, il s'est marié, mais il n'y a pas d'autres femmes. Et là, ils pensent qu'ils vont bloquer le gars. Mais si tu ne connais pas bien ta Bible, ils t'ont bloqué. Tu ne sais plus quoi dire. Ou tu dis n'importe quoi. Alors, ça dit dans Romains 5, verset 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. La Bible nous dit, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, 45, que précise que seuls les descendants d'Adam peuvent être sauvés. Alors, eux autres, qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire passer? Ils ont dit, si Adam et Ève n'ont pas eu d'autres enfants, c'est-à-dire que Caïn, en s'en allant au pays de Nod, il y avait d'autres races d'hommes là, et là, ils cherchent à faire des rapprochements que les hommes existaient, et que, c'est, dans le fond, ils cherchent à faire un rapprochement avec la doctrine de l'évolutionnisme. Il y avait d'autres hommes dans d'autres régions ailleurs, puis quand Caïn change de place, c'est là, c'est pour ça qu'il a permis, il a pu rencontrer ces gens-là. Alors, si seuls les descendants d'Adam peuvent être sauvés, comme le dit les Écritures, si tu peux démontrer qu'il n'y avait pas de descendants d'Adam, que tu n'es pas un descendant d'Adam ou que d'autres personnes ne sont pas des descendants d'Adam, ça implique l'incapacité d'être sauvé. Sylvain, là, je ne peux pas tout vous lire ça, mon gars. Mais je vous laisse le document. Alors, ça veut dire qu'au moins, prenez le temps chez vous de vous asseoir tranquillement, de lire cela et d'aller voir les versets que quand on vous donne des versets. Et prenez le temps d'articuler le raisonnement qui est en arrière de cela. Il y a un raisonnement extrêmement important qui est en arrière de cela. Et la Bible nous dit qu'on se devrait être capable d'être capable de défendre notre foi. Et si quelqu'un, par une simple question, d'où vient la femme de Caïn, t'es déjà bloqué, ça veut dire que tu ne connais pas ta Bible tant que ça. Alors, qui était Caïn à ce moment-là? Qui était Caïn et qui était la femme de Caïn? La réponse, elle se trouve dans Genèse 5, verset 4. Parce que ça dit, « Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans, il engendra des fils et des filles. » Ça veut dire que, fort probablement, que la femme de Caïn, c'était une de ses sœurs. Ça ne peut pas être d'autre chose. Alors, si c'était une de ses sœurs, là, il y en a qui vont emporter l'argument, mais les Écritures n'enseignent-elles pas qu'on ne se devrait pas d'avoir des mariages consanguins? Oui, mais d'un autre côté, la loi d'intermariage, elle est venue que 400 ans, elle est apparue au temps de Moïse. Alors, les Écritures même nous parlent d'Abraham comme ayant marié sa demi-sœur. Alors, l'interdiction des unions intermariages dans les mêmes familles, c'est venu 400 ans après. Alors, à l'époque, il faut croire que le Seigneur pouvait considérer que c'était quelque chose qui était acceptable parce qu'il ne s'était pas mentionné. C'était mentionné 400 ans plus tard. Alors, la réponse, qui était la femme de Caïn? C'est parce qu'Adam et Ève ont eu d'autres enfants, comme ça dit dans Genèse 5, verset 4. Mais combien d'entre nous sont capables de le faire? Et non seulement ça, mais tout le raisonnement qui est en arrière, le fait que si on n'est pas de la descendance d'Adam, du premier Adam, on ne peut pas être sauvé parce qu'on dit, dans les Écritures, on parle du second Adam, qui est Jésus-Christ. Je pense que je vous ai donné, en gros, l'essentiel, mais je vous conseille fortement de lire le document et d'essayer d'articuler dans votre tête tout le raisonnement qu'il y a derrière de ça. Il y a un raisonnement très important. Et si on ne le fait pas, ça veut dire qu'on est en train de désobéir au Seigneur qui nous dit qu'on se devrait être capable de défendre notre foi. Puis c'est un passage important parce que si tu commences à introduire des doutes dans l'esprit d'une personne dès le livre de la Genèse, dis-toi une chose, quand il va aller ailleurs, il va douter encore bien plus. Alors on se doit... C'est un devoir que le Seigneur nous dit. Et des fois, c'est juste de la paresse. C'est pas parce que les réponses n'existent pas. Comme l'avocat, ils ont choisi l'avocat pour te défendre dans le process Scopes. J'ai trouvé que ses réponses étaient vraiment pauvres. Et c'est parce qu'il ne connaissait pas ses écritures plus qu'il fallait. Il aurait dû être capable de défendre ça avec brio. Mais il n'a pas été capable. Ça démontre une chose. C'est que si une personne que des chrétiens ont nommée en charge pour défendre leur foi n'était pas capable de répondre à une question aussi simple que ça, à quelque part, ça nous démontre à nous que nous, on se devrait être capable de le faire, même si un avocat n'est pas capable de le faire. Alors, on va terminer là-dessus. Et je vais vous donner une copie de tout cela. Et après, si vous avez quelques minutes, j'aimerais ça que vous demeuriez parce que il y a des questions qui m'ont été posées la semaine dernière concernant l'offrande de Caïn. Et j'ai fait des recherches cette semaine là-dessus. J'ai produit un document. J'aimerais ça que, pour ceux que ça intéresse, que vous puissiez en prendre connaissance parce que c'est important. Donc, on va terminer là-dessus.